Chronique du Pays Toulousain. Une émission proposée par les Toulousains de Toulouse avec Aline Thomazin et Sébastien Pénary.
Chers auditeurs, nous retrouvons Aline Thomazin. Bonjour Aline.
Bonjour Sébastien.
Et puis bonjour Jean-François Ladjé, administrateur au Toulousain de Toulouse.
Bonjour Sébastien, bonjour Aline, bonjour à tous.
Nous avons abordé les temps dits obscurs qui ne le sont pas tout à fait. Mais nous allons peut-être redémarrer cette nouvelle chronique en s'interrogeant sur les sources. Comment connaît-on l'histoire de cette période du VIe siècle, les débuts de la dynastie mérovingienne?
Comment mérovingienne, rendre lumineux voilà. Ces temps obscurs. Il y a sûrement des moyens.
J'ai un petit peu compilé tout ce que j'ai pu trouver de manière assez simple. Hein. Depuis une quarantaine d'années, il y a énormément de travaux de recherche sur la période.
C'est un peu nouveau.
Je dirais une quarantaine d'années.
Oui, donc c'est quand même relativement récent.
C'est relativement récent par rapport à la connaissance d'autres périodes. Qui ont donné lieu à des travaux, y compris pour grand public, depuis fort longtemps. Mais tous ces travaux. Ensuite, qu'on peut retrouver dans des ouvrages de synthèse. Moi, quand j'étais petit, j'avais le Journal de la France, hein, 1978, tome 1, Naissance de la France. Il y a Duby, bien sûr, l'histoire de la France urbaine, en 80. Et puis, il y a un certain nombre de livres aussi vraiment très intéressants. Je pense à Bruno de Mézil, L'Empire mérovingien, 2023. Vous voyez, on n'est quand même pas si loin. Mais tous ces travaux sont quand même tributaire des sources primaires, c'est-à-dire les archives.
Et l'archéologie.
Oui, alors on reviendra aussi sur l'archéologie, mais si on reste sur le premier volet donc, qui est écrit, on n'a pas grand-chose de plus que Grégoire de Tours, donc évêque de Tours, qui compose de 574 à sa mort, 594, donc sur 20 ans, il rédige une chronique, une histoire des Francs. Voilà. Alors, il rédige une chronique un petit peu, quand même, flatteuse. C'est-à-dire qu'il est évêque dans lui-même, complètement issu de la famille mérovingienne.
Il a sa vision des choses, évidemment.
Voilà, donc il a sa vision. Mais au-delà de ça, tout ce qu'il a écrit a pu être réécrit sous les Carolingiens. C'est-à-dire... Et on va dire en gros sous Charlemagne, au IXe siècle. Sauf que les Carolingiens, comme vous le savez, ont déposé...
Ils détestaient les Mérovingiens.
Les Mérovingiens, c'est après la bataille de Poitiers, Charles Martel, Pépin le Bref. Donc ils fondent la dynastie carolingienne. Et alors les Carolingiens s'en donnent à cœur joie pour dénigrer la dynastie précédente. Ça a donné, vous savez, les rois feignants... et puis tout un des épisodes truculents entre la reine Bruno et Fred de Gaulle, etc. Enfin, des images d'Épinal. Grégoire de Tours nous est arrivé. Bien sûr, il y a les textes, mais il y a tellement derrière de transformations que... Oui. Voilà. Et puis, le texte de Grégoire de Tours a été continué par des auteurs tout à fait inconnus. Parce que Grégoire de Tours, vous dites, il meurt en 594, mais la dynastie mérovingienne, elle, se poursuit jusqu'à 751. Donc vous voyez, il reste un siècle et demi. Voilà. Donc au XVIe siècle, des historiens de l'époque ont compilé ce qui a suivi Grégoire de Tours et qui est authentifié comme étant les écrits de l'évêque, et ont donné un nom à ses auteurs inconnus, donc le nom de Frédéguer. Et après Frédéguer, on trouve le pseudo Frédéguer. Enfin, tout ça pour dire que c'est quand même une histoire extrêmement compilée, avec des avoues, des transformations en fonction des changements de rois, de dynasties, etc. Pour autant, on a quand même, pour nous c'est important, à Toulouse, on a aussi Venance Fortuna, qui vit à peu près à la même époque, qui est un Italien de la région du Veneto. Je n'ose pas dire Venise, parce que Venise, à ce moment-là, c'est vraiment un archipel de pêcheurs, mais On le connaît à l'Aquilée, hein, dans la grande ville du coin, où il se forme en théologie. Il naît vers 530. Ensuite, il étudie à Ravenne, et on ne sait pas pourquoi, quand il a une trentaine d'années, 35 ans, en 565, il quitte Ravenne pour Metz, capitale de l'Austrasie, c'est-à-dire un des royaumes qui composent l'Empire mérovingien. Et de Metz, il va à Trèves, il redescend vers Soissons et Paris, qui sont aussi des capitales royales mérovingiennes. Il est sans doute quand même plutôt bien en cours auprès de la monarchie. Il fréquente les reines, il fréquente les évêques. Il se lie d'amitié à Tours avec Grégoire de Tours. Il est nommé évêque de Poitiers vers 590. Et là, il écrit des poèmes, c'est un poète. Il parle de Toulouse. On ne sait pas vraiment s'il est venu, mais
oui, oui.
Peut-être que oui. Peut-être que oui, certains chercheurs pensent qu'il serait venu à Toulouse. Et là, il cite, dans les années... Il écrit en 590, mais à propos d'une église pour commémorer le martyr de Saint-Saturnin, de notre Saint-Sernin, qui aurait pu être construite donc, par un duc Lonnebaude dans les années peut-être 570-580. Alors ce duc Lonnebaude... Les historiens ne savent pas tous les bouts de savoir qui c'est. Il n'est cité que par Venance Fortuna.
Oui.
En même temps, ce lettré, on peut dire, qui en pleine Gaule mérovingienne, écrit en latin, est poète, fréquente les évêques, etc. On se dit, mais pourquoi il aurait intérêt à raconter n'importe quoi s'il n'y avait pas eu effectivement cet édifice qui se situe à l'emplacement du martyr. Bon, et là, ce qui est très amusant en termes de sources et d'analyse, c'est que beaucoup d'historiens se sont un peu agrippés et questionnés sur l'emplacement de cette église. Dit martyr de Saint-Sernin, pendant des décennies, on a pensé à l'église du Thor. Il a fallu les fouilles archéologiques de la place Esquirol et la découverte des fondations et du podium temple capitolin. Au forum Place Esquirol, là, devant Orange, devant, voilà, pour se dire, cette première église du VIe siècle, probablement, enfin, elle était là. Mais par contre, le duc de Lonnebaude, inconnu au bataillon, quoi. Voilà. Mais encore une fois, Venance Fortuna est une des rares sources sur lesquelles ensuite les historiens ont travaillé pour reconstituer un récit.
C'est le problème de l'histoire et du récit. Voilà. Ce ne sont pas les mêmes choses.
Voilà.
Est-ce que des chercheurs, des historiens étrangers se sont intéressés à cette période-là?
Oui, ils se sont...
Parce que parfois, on est très agréablement surpris par les études produites par...
Vous avez tout à fait raison, puisque... l'Empire mérovingien, enfin, à un moment donné, quand on dit empire, c'est parce qu'en fait, ce sont plusieurs royaumes. À chaque, vous savez, dans le droit franc, enfin, ce qui va devenir le droit salien, quoi, la loi salique, le territoire est la propriété privée du roi.
Oui.
On aura l'occasion de reparler de ce fait-là. Mais le roi meurt. Comme n'importe quel papa, il divise ses biens entre ses fils.
D'autant que les femmes ne pouvaient pas prendre la succession en termes de la loi salique.
Exactement, oui. Exactement. Ça a joué des tours en 1328, quand les juristes ont ressorti la loi salique pour éviter qu'une femme ne prenne ne vienne reine. Bref.
L'Église ne fit le point quenouille.
Voilà. Donc... Oui, dans le droit salien, on partage, et du coup, ça donne des royaumes assez amusants, d'ailleurs, quand on prend de recul, c'est-à-dire que comme tous ces gens sont quand même dans le nord, leur capitale, on l'a dit, hein, c'est Paris, Orléans, Soissons, Metz,
alors,
à un moment donné.
Les Toulousains qui nous écoutent, oui, il y a beaucoup de royaumes, mais on est où, nous ?
Alors, justement, on est un petit peu la soute d'équilibre de l'héritage, c'est-à-dire... J'y venais, c'est-à-dire que dès 511, quand Clovis meurt, il y a un partage entre ses trois fils. ils se taillent des royaumes, du coup, enfin, au nord, des royaumes cohérents territorialement. Mais comme ces royaumes sont déséquilibrés, on équilibre l'héritage de chacun. Alors, toi, tu prends Rodez, toi, tu prends Toulouse. Toi, voilà. C'est-à-dire que le sud-ouest, un petit peu, les cités, enfin, les anciennes civitas. Oui.
C'est une variable d'ajustement. C'est la variable d'ajustement. Sur la
donc, en 511, on fait partie du royaume de Soissons, si j'ai bonne mémoire. Je n'ai pas mes notes sous les yeux. Au deuxième partage, puisque après, dans les trois, là, ils s'entretuent. Enfin, moi. Enfin, il y en a. Bon, voilà, il y en a un qui finit par reconstituer le royaume intégralement, mais quand il meurt, rebelote.
Oui.
Donc là, Toulouse est dans le royaume de Paris. Alors le royaume de Paris de 561, il est un peu plus cohérent parce qu'en fait, il prend tout le bloc ouest de la Gaule, hormis la Bretagne. Mais pour revenir à votre question sur les sources, ça veut dire que l'empire mérovingien, il va très loin dans l'Allemagne d'aujourd'hui, en Germanie.
Oui, 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 je comprends.
Et donc les chercheurs. Oui. Les historiens allemands, notamment, ont beaucoup travaillé aussi sur l'Empire mérovingien.
Oui. Ma question était simple. Elle s'adresse aux Toulousains qui nous écoutent. Qui nous gouvernait pendant cette période? Mais ça faut peut-être faire l'objet de la suite de votre récit.
Oui, mais peut-être pour introduire la suite, au VIe siècle, très rapidement, ce sont les évêques qui sont les numéros un, les véritables chefs locaux.
Ils ont le pouvoir spirituel et temporel.
Et temporel, dans la cité, dans la ville. D'accord. On verra qu'il y a un comte, qu'il y a un duc, qu'il y a ceci, qu'il y a cela. Mais les véritables chefs, notamment dans les villes et à Toulouse en particulier, c'est l'évêque.
Très bien.
On en reparlera.
On va en reparler au prochain épisode. Merci beaucoup,
D'accord.
Jean-François.
À suivre, donc.